c'est qu'on a quand même une dizaine de minutes pour les questions avant la pause. Il faudra donc qu'il n'y ait pas trop de questions et que les réponses soient brèves. Je propose prendre une volée de questions brèves, regroupées. La parole est à la salle. Oui. Monsieur derrière. Ici. Voilà, il y a deux questions ici.
Oui, bonjour. Donc Jacques Schaff, enseignant de lycée en retraite, traumatisé du génocide rwandais et je dirais militant jusqu'au boutiste de la vérité sur cette affaire. Et je voudrais revenir sur un débat qui me tarabuste depuis longtemps et qui a été évoqué par monsieur Jean-Pierre Chrétien. C'est le travail de l'historien. Et la notion de rigueur. Alors, c'est une notion que je partage bien évidemment avec tous les historiens. Et il faut bien évidemment être rigoureux. La question que je me pose depuis beaucoup de temps, c'est le fait que l'historien est certes un scientifique, mais il n'est pas hors sol. Il est déterminé, comme tout à chacun, par une idéologie, par un contexte, par une idéologie dominante, par tout cela. La preuve, quand le génocide des Tutsis en 1994 a lieu, combien d'historiens, mis à part vous, monsieur Jean-Pierre Prétien, combien d'autres historiens ont compris ce qui se passait? Pas beaucoup d'autres, parce que l'idéologie les empêchait de voir, parce qu'ils avaient été formatés par la grille ethnique. Donc un historien est toujours, y compris aujourd'hui, toujours déterminé par un contexte idéologique. Donc, ma question est la suivante. Comment peut-on expliquer qu'il n'y ait pas eu de travaux d'historiens, de vrais historiens, sur l'implication de la France dans le génocide? Pourquoi il n'y a pas eu d'écriture encore d'un livre d'histoire, vraiment d'histoire, pas fait par un journaliste? Il y a eu des journalistes, il y a eu plein de gens, des militants, des citoyens qui ont fait des ouvrages qui sont parfois très intéressants, mais pourquoi l'historien ne s'est pas engagé dans ce débat? Est-ce qu'il n'est pas déterminé, lui aussi, l'historien, par un certain nombre de tabous? On ne va pas aller là où c'est dangereux, là où l'image de la France peut être ternie.
Merci. Monsieur derrière.
Oui, je vais prolonger le propos de Jacques Schaff sur Serge Farnel. Avec Bruno Boudiguet, ils ont interrogé quand même 80 témoins, en tout cas recoupés. Il y en avait plus à la base. Je voudrais savoir pourquoi des historiens ne vont pas essayer de rencontrer ces témoins et donc qu'il y ait une troisième enquête après celle de Serge Farnel et de Bruno Boudiguet. Pourquoi remettre en cause d'emblée leurs enquêtes dès lors qu'ils montrent qu'au-delà des complicités françaises, selon ces témoins, il y avait participation de blancs francophones aux tueries, notamment à l'arme lourde. Je suis assez étonné qu'il y ait à peu près 70% des gens qui connaissent ce sujet qui remettent en cause d'emblée les études de Serge Farnel et peut-être aussi celles de Bruno Boudiguet, et qu'à peine a priori 30% des gens essayent de voir au-delà et d'aller peut-être sur le terrain réclamer la vérité. Merci.
Je précise néanmoins que cette question de la France est prévue pour cet après-midi, puisque c'est une table ronde à laquelle participera Raphaël Maison, Gabriel Périès, Jean-François Dupaquet, Raphaël Doridan comme modérateur, donc peut-être faut-il pas... Pardon ? On parle du travail d'historien, je suis d'accord, mais si il faut donc peut-être serrer. Alors, il y a donc François Robinet.
Pour compléter peut-être ces deux questions et les décentrer un petit peu de la question du rôle de la France, pensez-vous qu'il y a une spécificité dans le rapport que l'historien a à ses sources et peut-être à sa méthode de travail, du fait de la proximité temporelle de l'événement et du fait aussi peut-être de son caractère génocidaire. Et donc là, je m'adresse aux trois intervenants, mais peut-être que Stéphane Audouin-Rouzeau nous apportera aussi des éléments de réflexion.
Une dernière question, peut-être là-bas, et pour qu'on essaye de répondre ensuite.
Voilà, Françoise Ims, moi je suis géographe, mais j'ai enseigné au Rwanda avant le génocide et après. Et alors je veux me demander à M. Kabata une question toute simple. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas cité l'ouvrage de Gérard Prunier, qui a été un des premiers, il a paru en anglais, puis ensuite traduit en français avec certains changements. Et bon, vous pensez que ça ne vaut rien? Enfin, c'était quand même, juste après le génocide, un des premiers qu'on ait lu et qui était, j'ai trouvé, très intéressant.
Est-ce que donc les intervenants de la table veulent répondre? Jean-Pierre, tu veux pas? Jean-Paul, Marcel, qui veut commencer? Marcel,
je vais commencer par répondre parce que ce sera plus vite. Il y en a d'autres que je n'ai pas cités et Gérard Prunier, son livre était dans mon texte. J'ai pas tout lu, donc c'est pas que j'ignore le travail, mais c'est vrai, j'ai pas tout dit. Alors, je peux peut-être aussi, il y a la question des sources, je crois. Bon, c'est vrai que cette table ronde est centrée sur quand même la méthode, hein, et n'est pas centrée sur l'erreur des uns et des autres. Alors, la question des sources, bien évidemment, elles ne sont pas ouvertes aussitôt, en même temps que l'événement. Il y a aussi un temps au-delà duquel elles sont accessibles ou pas accessibles. Je rappelle ici que la mission parlementaire qui laisse de 98, ils ont utilisé énormément de sources, mais qui ne sont toujours pas accessibles au public. Ça, ce n'est pas un problème idéologique, c'est un problème purement juridique. Alors, il y a peut-être quelque chose qui relèverait d'une idéologie ou d'une façon de comprendre. Vous connaissez tous le phénomène Wikileaks. Alors, est-ce que c'est souhaitable que toutes les sources, aussitôt, bon, dans le cadre de leur activité, que les responsables politiques ou administratifs, je ne sais pas, rendent publiques aussitôt les sources sur lesquelles ils travaillent, le risque étant qu'elles soient plutôt détruites. L'inconvénient étant que l'historien y a accès tardivement, mais y a accès. Il faut donc... ça, c'est un problème qui relève pas seulement du droit, mais qui relève du patrimoine, dès lors que les gens sont... sont impliqués dans une activité. Je pense que pour que les sources sur lesquelles qu'ils utilisent, les notes qu'ils rédigent, demeurent dans le patrimoine, il ne faut pas que les gens se sentent en danger. Alors, on peut discuter de ça. Il y a des pour et des contre. Ceux qui pensent que l'information au public est un droit, et que c'est un droit absolu et immédiat, mais qui risque du coup de ne pas avoir suffisamment d'informations parce que les gens, pour se protéger, ils ne mettront rien dans le patrimoine public. Alors, M. Schaff demandait, l'historien, est-ce qu'il a aussi... C'est un homme comme les autres, monsieur. Bon, donc, il peut aussi avoir ses a priori. Maintenant... Ce n'est pas le métier d'historien qui fait qu'il est forcément, forcément sous l'emprise d'une certaine idéologie. Et si les historiens n'ont pas réagi comme vous dites, ce n'était pas forcément un problème idéologique. Mais combien s'intéressaient au Rwanda déjà avant? C'est aussi ça la question. Que ceux qui n'étaient pas intéressés, qui ne connaissaient même pas le Rwanda, c'est peut-être normal que ce soit peu exprimé pendant ces moments-là. Mais par la suite, après, on peut se poser des questions, mais ce n'était pas forcément des positions idéologiques. C'est peut-être aussi un peu normal que ceux qui connaissent les pays s'expriment, soient les premiers à s'exprimer. C'est très anormal, par contre, que des gens qui ne connaissaient pas le pays, qui ne connaissaient pas le Rwanda, se soient par la suite exprimés, et assez largement, et en donnant du génocide des interprétations les plus fantaisistes, comme Pierre Payan. Ça, ce sont des comportements plus idéologiques que, qui ne relèvent du métier d'historien. Non, je n'ai pas dit qu'il était historien. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, l'histoire est produite un peu par tout le monde. Alors, la question de Bicicero, je pense que vous connaissez comme moi le travail de Boudiguet, qui est une reprise de Farnell, hein, qui est une reprise de Farnell. Ne croyez pas que ce n'est pas parce que les historiens n'ont pas produit tout de suite un ouvrage sur ces questions que les historiens se désintéressent de cette question. Ils l'étudient, ils l'analysent, il y aura un moment. Il y aura un moment. Mais il ne faut pas oublier que dans cette étude qui se fait, évidemment, nous prenons en considération les éléments d'information que nous avions sur cette situation-là. Quand on fait une analyse des textes, c'est ce que je disais, qu'on nous demande de prendre des positions, de nous exprimer sur des positions que nous ne pouvons ni condamner, ni cautionner. Moi, je prends en considération le texte, le témoignage de Raquia Omar, et je constate que les témoignages qui sont fournis à Farnell, en fait, c'est le même texte qui est fourni un peu à l'envers. Si on fait l'analyse des textes, en fait, il n'y a pas de nouveau, mais sauf qu'on fait jouer aux gens des rôles, on inverse un peu les rôles, je crois. Alors, si après on s'aperçoit qu'effectivement il y avait des Français au mois de mai 1994, je m'interroge sur les raisons pour lesquelles, je ne dis pas c'est impossible, mais je vois les textes tels qu'ils sont, les témoins les rescapés qui en 1995 parlent de Bicicero et qui s'y trouvent ne nous disent pas il y a des blancs. Pourtant, ils décrivent très bien l'affrontement entre les réfugiés Bicicero et les miliciens qui sont appuyés par l'armée et l'administration du territoire de Kibuye. Tout ça est bien décrit et on peut se demander pourquoi la présence des blancs que l'on va constater à la fin n'est pas dite à ce moment-là. Alors, me dire, comme le fait Boudiguet, à la fin du mois que les rescapés, quand ils témoignent pour African Right et même quand ils témoignent pour la commission Mutyo, parce qu'ils n'en parlent pas, nous laisser croire que ces rescapés ont peur de dire qu'il y avait des blancs parce qu'ils auraient commis une erreur d'accepter des Français au mois de juin en sachant que les Français les avaient trahis au mois de mai. Enfin, bon, voilà où nous en sommes. Mais nous ne sommes pas en train de faire, nous ne sommes pas des juges ou des procureurs. Mais nous en sommes à l'analyse des textes tels qu'ils sont.
Merci Marcel Cavanda. Je vais passer la parole dans un instant donc à Jean-Pierre Chrétien. Juste un mot, puisque donc, François Robinet me poser une question. Il me semble qu'il faudrait rappeler une chose extrêmement simple, c'est que l'opération historique est un processus d'une extrême lenteur. Et que les historiens répondent à leurs propres protocoles, et pas forcément à des protocoles qui leur sont, au fond, imposés de l'extérieur, avec de très bonnes raisons, éventuellement. Hein. Et je crois qu'il faut rappeler cet élément. Est-ce que, d'une part, la question du temps présent et la question du génocide est un obstacle ou, au contraire, un stimulant? Il me semble que la question, que le génocide, par sa massivité, en quelque sorte, au fond, crée un tropisme particulier pour le travail historien, et pas seulement historien, qui peut, évidemment, qui a comme danger, d'écraser, au fond, d'autres éléments, hein, donc périphériques, qui ont évidemment en même temps pourtant beaucoup d'importance. Et en même temps, la difficulté que pose l'étude de ces génocides, c'est les obstacles inhérents à l'objet lui-même. Puisque, à mon avis, et on a essayé de l'expliquer, Dumas et moi-même, dans ce numéro récent de XXe siècle, les sciences sociales sont en deçà de maîtriser les outils qui leur seraient nécessaires pour aborder plusieurs éléments absolument d'une importance capitale dans ce génocide lui-même. Et donc, toute une partie de l'énergie analytique du génocide, de l'objet lui-même, doit passer en travail sur les moyens, sur les outils eux-mêmes pour pouvoir faire ce travail. Donc, il y a donc un double travail à faire. La question du temps ne me paraît pas, en revanche, pertinente. Effectivement, le travail historien n'est pas un travail sur le passé, le travail historien est un travail sur le temps, contrairement à ce que la plupart des gens pensent. Et de ce point de vue, que ce temps soit récent, qu'il soit lointain, n'est pas, à mon avis, n'est pas un problème. Voilà ce que je voudrais dire, puisque j'ai directement questionné, sur la lenteur du travail historien. Personnellement, depuis 2008, j'ai converti la plus grande partie de mon effort de recherche personnelle sur la question du génocide des Tutsis rwandais. J'ai réussi à faire, en tout et pour tout, 2 articles. Et je suis bien content d'y être arrivé. Parce que c'est ça, je crois, le problème, c'est la capacité d'une production scientifique, donc sur un objet aussi résistant que celui-là. Seuls les gens qui n'ont pas une réelle éducation, finalement, au travail en sciences sociales, peuvent s'imaginer que ce soit facile et rapide. Et donc, personnellement, les accusations, si vous voulez, sur tout ce qui n'a pas été fait ou tout ce qui n'est pas fait, bien sûr, nous souffrons, nous aussi, comme chercheurs, de tout ce qui n'est pas fait et de tout ce qu'il faudrait faire. Mais je rappelle ce que disait Marcel Camanda tout à l'heure sur, justement, l'inégalité de sédimentation des travaux historiques sur des événements comme ça. Nous ne pouvons pas exiger des chercheurs travaillant actuellement sur le Rwanda, toutes disciplines confondues, qu'ils aient le niveau de savoir et de sédimentation cognitif et analytique que, par exemple, sur l'extermination des Juifs d'Europe ou sur l'extermination des Arméniens. Ou si on l'exige, eh bien, c'est une exigence tout simplement insensée. Voilà mon point de vue. Maintenant, je passe la parole à Jean-Pierre Chrétien, qui ne peut pas être accusé de ne pas avoir été conscient de ce qui se jouait en 1994, puisqu'il avait annoncé le génocide dès 1993. Et il était sans doute un des seuls acteurs du champ des sciences sociales en France à l'avoir fait.
Je n'ai pas annoncé le génocide, ce n'était pas possible. J'ai annoncé le risque de... Parce qu'en histoire, heureusement, ni le pire ni le meilleur sont prédéterminés. Il y a des forces qui semblent conduire à... Bon, on est toujours très prudent avec ça. Oui, moi, je ne peux qu'abonder dans ce que vient de dire Stéphane Audouard-Rougeau, c'est-à-dire que, d'abord, on ne peut pas tout faire. L'historien n'est pas là pour signer des pétitions ou prendre des positions. Il est là pour faire des travaux dans le domaine où il se sent le plus compétent, où il dispose de sources. Vous savez très bien que je suis traîné dans la boue par un historien, il s'appelle Bernard Lugan, lui il n'est pas journaliste, il répète la même chose que Péan, etc. C'est-à-dire que je ne parle pas du génocide des Hutus par les Tutsis. Bon, alors évidemment c'est un grave reproche dont je souffre, vous imaginez, mais enfin c'est pour voir où on en est, il faut tâcher de rester calme face à tout cela et de garder le cap. Moi je suis vraiment, je relis très souvent Les Assassins de la mémoire de Vidal-Naquet, il faut lire, il y a des passages très importants sur la rigueur du métier d'historien, jusqu'à déplaire à vos amis parce que vous dites là, attention, si on dit cela, on va vous reprocher de dire du n'importe quoi. Alors, donc, moi, c'est cette rigueur qui m'intéresse. Tout à l'heure, je ne reviens pas sur le débat qu'a rappelé Marcel. J'ai simplement parlé, je vous rappelle, du protocole d'enquête. Il faudrait parler aussi de l'historiographie du sujet, il l'a fait Marcel. Et puis, de la cohérence aussi du contenu. Je n'y reviens pas, ce que j'ai dit, ce n'est pas la peine de développer là-dessus. Ce qui est important, vous voyez, c'est le débat de méthode que tout ça soulève. C'est-à-dire que, vraiment, il y a un combat intellectuel. Nicolas Offenstadt vient de sortir un petit livre sur, je crois, l'historien au présent, quelque chose comme ça, mais enfin, il n'y a pas que lui. Au combat au présent, merci Marcel. C'est-à-dire qu'effectivement, ce combat, aujourd'hui, c'est contre le simplisme, contre le militantisme trop rapide, quel qu'il soit. C'est-à-dire, on est obligé de raison garder. Excusez-moi, c'est important aussi, ça. Même pour les combats qui sont très militants, parce que c'est vrai qu'ici, je crois que parmi les choses qui nous pas nous détermine, mais nous conduise, il y a l'horreur du génocide et aussi la volonté de comprendre ce qui s'est passé, etc., et la volonté aussi de combattre le déni de cette réalité. Mais justement, c'est un combat intellectuel et il faut le respecter. Et nous ne pouvons pas tout faire, encore une fois. C'est vrai, ça. Hein. Moi, en ce qui concerne la politique de la France au Rwanda, j'ai l'impression quand même d'avoir dit des choses. Mais je vois, par exemple, il y a un livre d'Olivier Lanotte hein, sur ce sujet. Bon, c'est un livre très riche, mais à mon avis discutable. Bon, ben, j'ai fait un compte-rendu, j'ai discuté de ce livre. J'ai poussé dans Politique africaine, je crois. Donc, c'est vrai que je n'ai pas fait de recherche spécifique là-dessus, mais je ne méprise pas les travaux de Jean-François Dupaquier et de Patrick de Saint-Exupéry. Ils sont journalistes, mais ils font un travail rigoureux. D'ailleurs, Jean-François Dupaquier, je commence à le connaître depuis longtemps. Si j'ose dire, on a eu le temps de se disputer à plusieurs reprises et de voir, disputer positivement, hein, discuter. Bon, donc, voilà, restons calmes, hein, et chacun fait son travail, mais il ne faut pas de fétichisation et de naïveté face à certaines sources. C'est tout ce que je voulais dire. Merci.
Bien, on a déjà donc mangé le temps de la pause, vous voyez, ce qui est extrêmement fâcheux. Donc je propose maintenant de lever cette séance. Et donc je laisse les organisateurs organiser la deuxième moitié de la session. Merci à tous. Merci.